Cette semaine, je reçois en entrevue Charles Saliba Couture, un copywriter qui écrit pour les causes. Son entreprise s'appelle Les mots pour la cause, justement. Et on va démystifier ensemble l'univers du copywriting au niveau d'avoir d'autres objectifs que celui de vendre, donc celui de persuader pour mener vers d'autres genres d'actions comme, par exemple, militer ou faire des dons. « 180 degrés », c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Snaps Marketing. « 180 degrés » est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Charles Saliba Couture, copywriter pour des causes sociales. Avec plus de 12 ans d'expérience dans le milieu de la solidarité internationale et une réelle passion pour les mots qui font une différence, Charles vient nous partager ses connaissances et son expertise unique. Avec son entreprise Les mots pour la cause, il accompagne des organismes à mieux communiquer de manière persuasive et à adopter fièrement l'écriture inclusive. J'ai envie qu'on jase ensemble de copywriting, oui, mais également de comment les concepts derrière nous aident à devenir de meilleurs solopreneurs. Autrement dit, comment les compétences en copywriting peuvent être transposées dans notre propre développement entrepreneurial. Donc officiellement, bienvenue Charles!
Merci Mélanie!
Merci de m'accorder ton temps pour parler de cause sociale, un sujet que j'ai jamais abordé sur le podcast. Fait que je suis super contente qu'on puisse en parler aujourd'hui.
Ben moi aussi, merci de l'invitation.
Ben ça me fait vraiment plaisir. Puis j'ai envie qu'on commence en fait pour apprendre à te connaître davantage. Si tu veux nous parler un petit peu de ton parcours, j'ai parlé de 12 ans d'expérience dans le domaine justement des causes sociales au niveau international. C'est quoi un peu ton background par rapport à tout ça? Puis qu'est-ce qui t'a mené surtout à avoir fondé ton entreprise?
Ben en fait, j'ai fondé mon entreprise en 2020. Je me suis lancé en 2020, puis c'était vraiment... Ben le classique là, durant la pandémie. Là, la pandémie venait juste de commencer, puis je me suis lancé, comme plusieurs aussi à ce moment-là. Puis avant ça, je travaillais dans le milieu de la coopération internationale au sens large. Donc, c'était pas... Il y avait, oui, des ONG, des organismes à but non lucratif, des organismes de défense des droits humains, mais il y avait aussi des organismes gouvernementaux. J'ai travaillé aussi pour des centres de recherche, tout ça, donc ça a pas mal varié. Et en me lançant à mon compte en 2020, j'ai réfléchi à deux choses. Tu sais, je me suis lancé à mon compte d'abord en réaction à ce que j'avais vécu avant. Donc, c'était de me dire qu'est-ce que je veux garder avec moi, qu'est-ce que je veux transporter avec moi dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que je veux mettre de côté. Tu sais, donc j'ai fait des choix donc entre autres de pouvoir comment je dirais ça. Tu sais, je pense qu'à la base, comme plusieurs me lançaient à mon compte, c'était d'abord de choisir un mode de vie. Tu sais, il y avait quelque chose que je voulais maintenir avec moi, que je voulais avoir, qui était bon, oui, un équilibre, etc. Plusieurs choses, choses que je recherche encore aujourd'hui là.
Ouais, c'est pas tant facile cette portion-là.
Non, cette portion n'est pas aussi facile. Mais il y a une chose qui était simple pour moi, ou en tout cas évidente, c'est que je savais que je voulais travailler dans le monde des causes. C'est ça, ça demeurait autant avant de me lancer à mon compte que par après. Je voulais que ça c'était un des éléments que je voulais garder avant même de savoir exactement qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais offrir comme service. T'sais. Donc ça c'était clair et net pour moi. Donc c'est la partie, je disais, donc c'est ça, c'était quand je dis en réaction à, c'est peut-être en réaction à certaines expériences passées un peu moins plaisantes dans le monde du salariat, mais c'est aussi de réfléchir à pourquoi je me suis lancé, tu sais, le pour, là, pas juste en réaction, mais aussi pour faire quoi, pour apporter quoi. Puis là, c'était de se dire, OK, tu sais, j'aimerais ça, pouvoir continuer à œuvrer dans le monde des causes, puis continuer à faire une différence, puis j'ai choisi de le faire à travers les mots, tu sais. Puis quand je dis faire une différence de façon très modeste aussi, là, ça, j'en suis très conscient qu'on n'est pas en train de changer le monde non plus au grand complet, mais de voir comment à travers mes services, je pourrais faire une petite différence. Puis, c'est ça, j'ai choisi en fait l'écriture là, comme médium.
Est-ce que c'était déjà ça que tu faisais avant, dans ton expérience de salariat ou t'étais complètement ailleurs?
Ça variait entre les coms et la gestion de projet. T'sais, mon parcours oscillait beaucoup
OK.
entre les communications et la gestion de projet, mais oui, la rédaction était comme quand même une ligne directrice à travers tout ça, là.
OK.
Mais c'était.
Puis le copywriting s'est inscrit naturellement au moment de devenir entrepreneur ou c'était déjà quelque chose que tu avais t'sais, appris puis même
Ouais, en fait.
intégré?
Non, c'est ça. Quand je me suis, c'est une bonne question parce que quand je me suis lancé à mon compte, j'offrais en fait des services de manière assez large. J'offrais des services de rédaction, mais aussi de traduction et de révision.
OK.
Donc, c'était quand même assez large. Ça a duré comme ça quelques mois. Puis ensuite, j'ai décidé assez rapidement de me spécialiser dans un certain type de rédaction qui était la rédaction persuasive ou le copywriting. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi ce type-là de rédaction, c'est que c'était, selon moi, là, la rédaction qui fitait le mieux avec l'objectif que je m'étais donné, qui était de faire une différence avec les mots. Puis vu que la rédaction persuasive, par nature, son objectif, c'est d'inciter, d'encourager les personnes à faire une action et donc d'avoir un impact, je trouvais que ça fitait bien donc avec mon objectif qui était d'avoir un impact avec les mots, tu sais. Donc, ça
Ouais.
m'apparaissait être un lien assez naturel. Puis à ce moment-là, j'ai mis de côté des services autres qui n'étaient pas de la rédaction, qui étaient par exemple traduction, révision. Puis au niveau de la rédaction, j'ai vraiment précisé ça en faisant pas juste de la rédaction web au sens large, mais vraiment de la rédaction persuasive, du copywriting, dans le fond, en anglais.
Ouais, c'est important parce que tu sais, on parle beaucoup du copywriting dans l'objectif de vendre, puis dans un objectif très mercantile pour des business, mais effectivement, le principe derrière de vouloir encourager un mouvement, une action, puis mobiliser, ça se prête super bien aux causes, là. Fait que c'est très, ouais, très aligné.
Ouais, puis en fait, je te dirais, tu sais, sur mon site, il y a une des choses que je dis, c'est le copywriting, ce n'est pas juste pour vendre des affaires, tu sais. J'en avais fait un post, puis ça avait fait un peu un débat par rapport à ça, parce qu'il y en avait qui disaient, ah oui, on est d'accord, d'autres qui n'étaient pas d'accord, bon, c'est correct aussi, mais ce que je remarquais, c'est qu'il y en a plusieurs qui me disaient, on n'est pas d'accord parce que tu joues sur les mots, tu sais, vendre, les personnes qui n'était pas d'accord, disait, mais c'est parce que vendre, c'est un synonyme de persuader, tu sais, donc l'utilisait comme un synonyme. Puis en fait, moi, j'essaie de quand même créer une distinction entre persuader et vendre parce que la persuasion, c'est de mener à une action, tu sais, c'est ça l'objectif, c'est de persuader avec nos mots pour faire une action précise. Puis cette action, c'est pas juste de vendre, ça peut être aussi, par exemple, de faire un don. Donc, je trouve ça plus large d'utiliser le terme, par exemple, persuader que vendre, parce que selon moi, c'est ce qui est à la base du copywriting. C'est pas la vente, c'est la persuasion. La vente, c'est une action parmi tant d'autres qui peuvent être accomplies à travers cette persuasion-là, tu sais. Donc, il y en a qui vont me dire, bon, OK, tu sais, t'es un peu en train comme je disais, de jouer sur les mots, mais en même temps, je ferais pas ma job si je considérais que les mots étaient pas importants, mettons.
Ouais, c'est un bon point. C'est un bon point. Ouais, ben, en fait, c'est ça, ça peut être de persuader à la limite d'aller participer à une manifestation, tu sais, de se mobiliser, de faire quelque chose. Donc,
Ouais, exactement.
je pense, ouais. Mais en même temps, il y a des gens qui diraient, oui, mais on vend des idées, mais c'est vrai que le mot vendre, c'est peut-être, on persuade, ouais,
Ben, même je te
je comprends.
dirais, même pour moi, d'utiliser le mot vendre dans le monde des causes sociales, c'est de dire vendre une cause, chose que j'ai déjà entendue aussi ici et là sur les réseaux sociaux. Je sais que les organisations OBNL et fondations avec lesquelles je travaillais, si j'utilisais l'expression vendre votre cause, ça plairait vraiment pas,
Il
là.
serait pas à
Ah non, non, non,
l'aise.
ça plairait pas du tout.
Ouais.
Fait que, il y a aussi ça,
Ouais.
là, dans le sens que si on voit que ça plaît pas à ce point-là, ça veut dire que, ah, ben, il y a une différence, en fait, entre persuader et vendre. Tu sais, il y a vraiment une différence.
Ouais.
Si ça plaît pas à ce point-là, par exemple, à ma clientèle, c'est qu'il y a quand même des distinctions, tu sais. Donc voilà, c'est ça.
Ouais. Je comprends parfaitement. Puis, tu sais, quand on a préparé l'entrevue, quand on a discuté de quoi on pourrait vraiment parler pour l'épisode, tu m'as tout de suite amené l'idée de certains principes de copywriting qui peuvent être transposés dans notre réalité de solopreneur. Puis là, j'étais comme, oh, c'est intéressant. Et j'ai gardé le suspense. Tu m'en as pas parlé avant. Puis là, j'ai comme le goût que tu commences avec ça parce qu'effectivement, c'est un milieu qui peut sembler très, très loin du monde du soloprenariat. Fait que tu as vraiment piqué ma curiosité. Puis là, j'ai le goût d'entendre quels sont ces principes-là qu'on peut transposer.
Ben, je te dirais, tu sais, que c'est vraiment une réflexion qui est tout récente, là. C'est quelque chose que j'ai eu pendant le temps des fêtes. J'ai commencé à faire des liens entre certains principes de copywriting, puis comment ils ont pu me servir de manière plus large, tu sais, dans le développement de mon entreprise, dans mon développement comme solopreneur, tu sais, comme freelance. Mais c'est ça, tu sais, je pense que je les ai transposés peut-être ces principes-là sans trop m'en rendre compte. Puis je me rends compte que en continuant d'avancer, en allant de l'avant, j'aimerais ça faire cette transposition de manière un peu plus consciente, tu sais. Pour donner quelques exemples, là, tu sais, mettons en copywriting, on va parler, puis même en marketing en général, là, on va parler comme quoi la spécificité vend ou la spécificité contribue à la persuasion, là, si on veut pas utiliser le terme vente. C'est un principe qui est quand même très, très connu, qui est très répandu, là. T'sais, on révolutionne pas le monde avec ça. Un exemple, c'est de dire, mettons, abonnez-vous à mon infolettre pour recevoir plusieurs trucs de copywriting, mettons. T'sais, ça, c'est un exemple mm-hmm. un. C'est pas assez spécifique pour que ce soit très convaincant. T'sais, si on veut le rendre un peu plus spécifique, on pourrait dire, abonnez-vous à mon infolettre pour recevoir, mettons, 12 trucs de copywriting. Puis même, on pourrait rajouter ensuite, c'est quoi les bénéfices en s'abonnant, puis c'est quoi que ces trucs-là vont nous apporter, etc. C'est une autre histoire. Mais juste le fait de nommer un chiffre, déjà, cette spécificité-là contribue à la persuasion. Bon, plusieurs personnes connaissent ce principe-là en copywriting. Puis, ce que je me rends compte aussi, c'est que ce principe-là de la spécificité s'applique aussi comme solopreneur, comme freelance. J'utilise les termes un peu de façon interchangeable, même si je sais qu'il y en a qui font des différences entre les deux termes. Puis je pense que, tu sais, c'est entre autres, tu sais, je pensais à mon parcours, puis je me disais, cette spécificité, c'est, on peut la comprendre entre autres en termes de se nicher. Tu sais, puis il y a tout un débat à savoir, est-ce qu'il faut se nicher, pas se nicher, se surnicher, etc. Bon, ça, on pourrait en parler très, très longuement. Mais je pense que, de manière générale, à un moment donné ou à un autre dans notre parcours, on est amené à être spécifique dans ce, sans utiliser le terme se nicher, mais à être spécifique dans ce qu'on offre. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est un élément essentiel, à mon avis, pour se positionner, tu sais, pour être reconnu dans un domaine d'expertise précis. Je pense que la spécificité est importante. Puis, plusieurs personnes pourraient dire, ah, mais tu sais, pourquoi se limiter à une niche? Puis justement, c'est là où je suis pas nécessairement, je suis d'accord avec le fait qu'on doit pas se limiter à une niche, dans le sens où je te disais tout à l'heure, Mélanie, que quand je me suis lancé, j'ai ratissé très large, là, traduction, révision, rédaction. Oui. C'est l'inverse de se nicher, là. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment très large au niveau de ce que j'offrais. Puis, si c'était à refaire, je le referais exactement de la même manière, tu sais.
C'était là où j'allais, ouais, dans ma tête.
Parce que ça m'a apporté beaucoup. On fait tout ça. Ouais. Ça m'a permis d'explorer, de découvrir plein de choses. Puis ensuite, je me suis spécifié, si on va dire ça de même. J'ai précisé mon offre, pour le dire autrement. Puis peut-être que ça veut pas dire qu'après, je veux pas vouloir ratisser plus large à un autre moment, dans le sens où si à un moment donné, je deviens comme très, très reconnu dans un milieu ou sur un service en particulier, après, je vais pouvoir me permettre d'offrir d'autres services qui sont un petit peu qui gravitent autour parce que mes clients vont pouvoir se dire « Hey, on a aimé Charles pour tel service. » Ben là, Charles offre aussi tel autre service, mais on va aller de l'avant, tu sais. Même si c'est quelque chose pour lequel je suis pas nécessairement reconnu. Ça pour dire, je pense, à un moment donné ou à un autre, c'est ça qui est important, là, c'est à un moment donné ou à un autre, on est amené, je pense, à préciser son offre. Puis je le vois que moi, à partir du moment où j'ai fait cet exercice-là de préciser autant à qui je m'adresse, les services que j'offre, les types de formats aussi en copywriting que j'offre, parce que je fais pas tous les formats en copywriting, ben je vois que ça a vraiment contribué à mon positionnement, tu sais, puis à ce que mon nom circule. Fait que ça, c'est un exemple. Oui. Un autre exemple, je te dirais, d'un principe de copywriting qui se transpose bien, je pense, au monde du soloprenariat. Deux autres, peut-être, de façon vraiment beaucoup plus rapide. Le premier, c'est, on va souvent dire en persuasion, en rédaction persuasive, une action, tu sais, de vraiment se concentrer sur une action, un appel à l'action dans nos textes ou quoi que ce soit. Donc, c'est un principe à la base de la persuasion parce que sinon, on crée de la confusion. S'il y a plusieurs appels à l'action qui peuvent des fois être contradictoires, ça nous demande un effort psychologique de faire un choix, etc. Puis, je le vois que cette année, parce que je le faisais pas tant avant, mais cette année, j'ai décidé de me donner juste une action précise dans l'année. Tu sais, à l'heure où tout le monde parlait de leur résolution puis de leurs objectifs, tout ça, je me suis dit, c'est quoi l'action une seule que je veux poser pour que je considère que mon année soit réussie sur le plan professionnel, je parle. Donc, c'est une action très précise. Ça veut pas dire que je vais pas en faire d'autres, mais je me suis donné une seule action pour ne pas pouvoir de pas d'être vraiment focus, c'est de pas me perdre, parce que je le remarque que dès que j'en mets genre 3, 4, 5, puis avec des indicateurs, puis là, des plans d'action à chacun des objectifs, et je ne sais trop là, je m'y perds un peu, tu sais. Puis après, c'est comme c'est ça, tu sais, même en les priorisant, ça fait que j'ai décidé de vraiment de tester ça cette année. Puis l'action que je me
C'est-tu
suis
précis comme action? Comme c'est-tu très défini ou c'est vraiment comme at large
c'est très défini.
faire une différence?
Ouais, non. C'est très défini. En fait, c'est l'action pour moi prioritaire cette année, c'est de lancer une formation en copywriting d'ici
Très
l'automne.
cool.
T'sais, donc, je suis déjà en train de travailler là-dessus. Puis en décidant ça, j'ai déjà commencé à travailler là-dessus, même un petit peu avant 2024. Donc, je suis vraiment là-dedans en ce moment. Fait que c'est ça, il y a ça. Puis la troisième chose, je te dirais, Mélanie, c'est le fameux exercice de persona qui s'applique à tout marketing, puis entre autres, bon, au copywriting aussi, évidemment, tu sais, de vraiment bien connaître les désirs, les objections, etc., les peurs et autres du public, des personnes à qui on s'adresse. Je me suis rendu compte que cet exercice-là de psychologie, de vraiment rentrer dans la tête et dans le cœur des personnes à qui on s'adresse, qu'on le faisait pas assez pour, en tout cas, je vais parler pour moi, que moi, je le faisais pas assez pour moi-même, de rentrer, c'est-à-dire dans ma tête, tu sais, dans ma tête, dans mon cœur, puis que ça, sans m'en rendre compte, ça a créé des désalignements dans les dernières années, ça a créé un épuisement, ça a créé toutes sortes de choses. C'est que je me suis rendu compte que j'avais besoin de vraiment beaucoup plus plonger dans ma psychologie à moi. C'est de vraiment cet exercice-là, on n'arrête pas de dire, ah, pour que tes services parlent à ton audience, rentre dans la tête de ton audience. Et moi, j'ai envie de dire, OK, mais renversons aussi la chose, puis disons-nous, pour que nos services nous parlent aussi à nous, assurons-nous aussi de faire la réflexion, encore une fois, je vais parler pour moi, je veux m'assurer, moi, de faire la réflexion sur c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes peurs, c'est quoi mes besoins, etc., mes intérêts. Fait que ça a l'air un peu béaba, mais c'est une réflexion qui est un peu pas mal en cours de voir comment ces différents principes de copywriting peuvent s'appliquer. Puis j'ai suivi un accompagnement il y a plus d'un an avec Audriane Turcotte. Elle a un service qui s'appelle Design tes services. Puis je trouvais ça intéressant parce que son approche était beaucoup centrée là-dessus. C'était de designer tes services, pas juste pour que ça réponde aux besoins de ta clientèle, mais aussi pour que ça réponde à tes besoins. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça.
Vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu sais, moi, je dis souvent, parce que j'ai beaucoup de petites clientes qui sont dans le domaine du développement personnel, puis je me rends compte à quel point les entrepreneurs pour qui c'est plus facile, puis je dis pas facile en termes de résultats, mais facile d'être aligné puis de se sentir bien dans son entreprise, puis de pas sentir que tu as comme créé quelque chose qui te correspond plus ou t'es désaligné. Mais c'est souvent ceux qui font ce travail-là sur eux-mêmes. T'sais, comprendre qui tu es, c'est quoi que tu as besoin pour te sentir confiante. T'sais, le meilleur exemple que j'ai, c'est quand on dit à des entrepreneurs comme message, ben, t'sais, faut que tu lâches ton 9 à 5. Ou mettons dans mon cas à moi, t'sais, quelqu'un aurait dit, ben, toi, tu voudrais avoir des produits d'information ou des formations, des choses comme ça. ben vas-y all-in, tu sais, lâche tes mandats de gestion de projet marketing, tout ça, puis lance-toi. Ouais, mais c'est parce que moi, mon besoin de sécurité, là, il est important. Tu sais, dans l'équation, là, moi, j'ai réalisé avec le temps que c'est bien beau de dire j'y vais all-in, puis moi, j'ai besoin d'avoir une certaine forme de sécurité, puis si pour moi, je ne l'ai pas, ma créativité ne sera pas au rendez-vous parce que tu te maintiens dans un état de survie, tu sais. Fait que le lien, je trouve ça beau avec ce que tu me partages parce qu'effectivement, si tu ne te connais pas toi, c'est quoi tes peurs, c'est quoi ton besoin, tu sais, l'espèce d'équilibre entre sécurité et liberté, tu sais, comme tu l'as dit, on se lance pour se sentir plus libre. Puis au final, parce que parfois on a trop besoin de sécurité, on a plus besoin, pas trop, mais des fois on peut se créer un modèle d'affaires et de services justement mal réfléchi, mal pensé, qui nous enferme dans quelque chose qui nous rend tout sauf libre, mais très sécuritaire. Tu sais?
Ouais, c'est vrai. Tu sais, je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, la liberté. J'avais beaucoup ce mot-là dans la bouche quand je me suis lancé à mon compte. C'était beaucoup ce désir-là. T'sais, tu me parlais de mes motivations quand je me suis lancé, puis je l'ai moins abordé, mais c'était quand je disais en réaction à là, ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, c'était entre autres de plus me faire imposer des règles, de plus me faire imposer des partenaires avec qui j'ai pas envie de travailler ou des tâches que j'ai pas envie de faire ou quoi que ce soit. Mais de vraiment, puis un horaire ou un lieu de travail, etc. T'sais, on est plusieurs là-dedans. Là. C'est le mot free dans freelance, je pense que c'est pas pour rien. T'sais, il y a comme vraiment ce désir de liberté-là. Puis, c'est vrai qu'il existe, mais moi, dans mon cas, il a existé sur papier plus qu'en réalité. T'sais. Puis, je me suis demandé, mais voyons donc, pourquoi? T'sais, comment se fait-il que, alors que c'est moi qui décide mes propres règles, comment ça, j'ai pas pu créer des règles où est-ce que je suis vraiment libre pour de vrai, là, tu sais? Évidemment, là, on s'entend, j'avais quand même une certaine flexibilité, liberté, là, c'est pas non plus que j'avais les mains attachées, mais je sentais quand même, j'étais comme, on dirait que ma liberté est quand même plus théorique que d'autres choses. Je pourrais aller beaucoup plus loin dans cette liberté-là. Puis, tu parlais de, tu sais, comment trouver justement, de voir comment est-ce que des fois la sécurité peut nuire à la liberté. Puis, moi, ce que je me rendais compte, c'est à quel point j'aurais pas de liberté tant que j'ai pas d'équilibre, tu sais. Puis maintenant, j'ai moins le mot liberté dans la bouche aujourd'hui, j'ai plus le mot équilibre. Parce que je me rends compte que c'est une condition préalable à tellement de choses, y compris la liberté, mais aussi y compris la viabilité financière et autres de mon entreprise, tu sais.
Mais l'équilibre, c'est dur à définir aussi comme concept parce que c'est très... Tu sais, justement, j'ai l'image du funambule un peu là, sur le... Tu sais, la ligne de l'équilibre est très, très fine. Puis des fois, on a besoin de vivre un déséquilibre pour... Tu sais, je sais pas comment toi, tu définis ce concept-là. Là, on s'en va vraiment dans l'aspect très philosophique du concept.
Ben, écoute, j'ai vu un post la semaine dernière. Je me souviens plus c'est qui l'avait publié, mais ça commençait quelque chose dans le genre équilibre. J'arrête de te chercher, je suis plus capable, t'existes pas, t'es juste un mirage, t'sais, j'en ai marre de te chercher, t'sais. Puis ça m'avait fait quand même quelque chose de lire ce post-là parce que j'avoue que j'ai déjà pensé ça moi aussi. J'ai déjà pensé, ah, ça existe pas ce mot, cet équilibre-là, t'sais, c'est comme...
C'est un concept.
C'est un mirage. en tout cas, des fois, ça m'apparaît, je dis pas que ça l'est, mais des fois, ça m'apparaît comme un mirage. Des fois, j'ai l'impression que c'est juste une quête qui est voué à une éternelle insatisfaction qui est sans fin, tu sais. Mais je pense que même si c'est une quête sans fin, puis c'est un projet de vie, puis ça a différentes significations pour toutes et chacune, là, c'est quand même une quête que j'ai envie de mener, tu sais.
Ouais, puis, tu sais, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, mais ce que toi, ça te permet aussi d'un point de vue personnel, comme sentiment d'accomplissement, de travailler avec des organismes qui ont une mission sociale.
Ouais.
Ça, j'imagine, pour toi, c'est comme le moteur principal de tout ça, dirais-tu ça, en fait?
Oui, c'est le moteur principal. Tu sais, comme je te dis, avant même de savoir ce que j'allais faire comme service, c'était vraiment, je savais que je voulais baigner dans le monde des causes sociales. Tu sais, comme pour moi, c'était ça qui était le plus important avant même de savoir exactement qu'est-ce que j'allais faire. Puis oui, ça m'apporte beaucoup, tu sais. Puis en même temps, je dirais, tu sais, on dirait que quand on dit ça, c'est comment je dirais ça? Tu sais, on dirait que quand on dit ça, c'est comme si tout d'un coup on devenait genre Mère Teresa, là, parce qu'on disait ah mon Dieu, c'est quelque chose ouais. de noble, puis t'as le cœur à bonne place, c'est tout vrai. Ça. Puis tu sais, des fois, j'aime pas trop ça quand on transforme les personnes qui œuvrent dans le monde des causes sociales en héros, en héroïnes ou quoi que ce soit, parce que moi, en tout cas pour moi, c'est à la base, ça part d'un besoin. Ça part d'un besoin personnel que j'ai. C'est pas une question, c'est pas juste une question de tu sais, moi je le dis toujours, dans le monde des causes sociales, par exemple, pourquoi les personnes donnent une cause, c'est d'abord et avant tout par rapport à une expérience personnelle, à un besoin personnel, avant même d'être une raison altruiste, purement altruiste.
Okay.
Ça, c'est ma vision des choses. Puis de toute façon, plusieurs études aussi corroborent aussi cette hypothèse-là. Mais la même chose s'applique dans moi, dans le choix du milieu dans lequel j'œuvre à travers mon entreprise. Je ne considère pas que c'est une vocation ou quoi que ce soit. C'est d'ailleurs un terme que je n'aime pas trop parce que la vocation sert souvent à justifier une dévalorisation, par exemple, entre autres monétaire, de toute personne et de tout service qui sont dans ce milieu-là. Donc, je fuis le mot vocation.
On salue
vocation.
Les infirmières, infirmiers du Québec.
Exactement.
Tu sais, genre.
Ouais, exactement.
C'était une vocation d'ange gardien, là, tu sais, juste pour justifier qu'ils nous sauvaient un petit peu le derrière durant la pandémie, puis on voulait pas trop les augmenter après, là.
Ouais. Ouais. Puis c'est des milieux, justement, généralement, on utilisait le terme vocation pour des milieux qui étaient à majorité, où est-ce qu'il y avait une grande majorité de femmes qui travaillaient aussi dans ces milieux-là, puis c'est pas un hasard non plus, tu sais, dans le sens que ça contribue à justifier de ne pas autant les payer que les hommes, tu sais, de justifier cette inégalité-là. Mais là, bon, c'est ça, on est parti dans tout un autre sujet, mais pour répondre à ta question, Mélanie, tu sais,
à ton besoin,
moi, je ressentais le besoin de travailler dans le monde des causes sociales parce que moi, ça m'apportait de quoi? Ça m'apportait, moi, une valorisation dont j'avais besoin pour différentes raisons. Il y a aussi différents enjeux qui, moi, viennent me chercher particulièrement, comme par exemple les enjeux liés à l'inclusion. Et je sais d'où ça part. Ça part, encore une fois, de mon expérience personnelle en tant qu'homme gay. Fait que, tu sais, il y a plein de choses, il y a plein de mes choix qui partent, évidemment, de mon expérience personnelle, de mes besoins personnels. Et je ne crois pas que ce choix-là professionnel de travailler dans le monde des causes sociales soit une exception. Au contraire, je pense que ça fait juste confirmer la règle, autrement dit, là.
Ouais.
Mais c'est ça, je prends beaucoup plaisir à travailler dans le monde des causes sociales, mais peut-être juste mentionner que, puis j'ai cette réflexion cette année, j'ai été approché par plusieurs organisations qui portent des causes sociales qui sont, comment je dirais, où est-ce que, tu sais, ça peut être un peu plus difficile à aborder et que ça peut être un peu plus difficile au niveau du moral, tu sais. Puis ça, je me suis fait poser la question des fois sur comment tu trouves de travailler dans le monde des causes sociales. Est-ce que des fois, tu trouves que ça affecte ta santé mentale et tout ça? Puis c'est vrai qu'il y a certaines causes, des fois, qui peuvent être vraiment beaucoup plus difficiles. Je pense entre autres, par exemple.
C'est chargé.
Oui, c'est ça, une maladie incurable ou autre. C'est quand même d'entendre des histoires liées à ces causes-là, si je peux dire. C'est vraiment... ça peut être assez difficile aussi. Donc, donc je le mentionne parce que c'est quand même aussi parfois ça peut être un défi de composer avec cette charge-là émotive dans le fait de travailler dans le monde des causes sociales.
Ouais, non, j'imagine bien que ça doit pas être léger toujours là, d'aborder des certaines thématiques sont, comme tu l'as dit, sont plus chargées en émotions, puis ouais. Mais en même temps, je pense que t'as comme dirais-tu que t'as une valorisation plus importante parfois dans ce que tu reçois?
Ben c'est pour ça, je pense que c'est les deux côtés d'une même pièce, tu sais, dans le sens où si on sentait pas qu'on faisait autant une différence ou qu'on parlait vraiment de d'enjeux vraiment très humains, très, tu sais, je pense que t'sais, même si c'est des histoires des fois qui sont difficiles ou des expériences difficiles, quoi que ce soit, c'est aussi ce qui fait qu'on se sent autant valorisé parce que on voit aussi l'impact de ces organisations-là avec lesquelles je collabore, tu sais, moi, je le dis toujours, je veux dire, c'est pour ça que je te disais au début de façon très modeste, parce que je veux dire, l'impact vraiment qui est fait, c'est pas, c'est vraiment, c'est les organisations qui le font auprès des personnes avec qui elles œuvrent, tu sais. Moi, je les accompagne là-dedans à travers la rédaction persuasive, à travers les mots, mais c'est ça, tu sais, c'est un
Ouais.
mandat quand même très précis, là.
Effectivement. Puis tu sais, là, j'aurais le goût qu'on aille justement explorer cet univers-là du copywriting pour des causes. Tu sais, j'ai envie en fait de te demander, c'est quoi la grande différence pour toi dans ce que tu fais de faire ce genre de rédaction-là pour des organismes versus, si j'ai envie de dire copywriting normal, puis là, je mets des gros guillemets, c'est pas une normalité, mais juste c'est quoi pour toi les principales différences par rapport à ces deux milieux-là?
Ouais, est-ce que tu veux dire dans la façon qu'on fait le copywriting ou OK.
Oui,
Ouais,
s'il
c'est
te plaît.
ça, parce que en termes, ben d'abord, je pense que tu sais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs principes de copywriting traditionnel, on va dire là, de
Ouais.
vente traditionnelle qui s'appliquent aussi dans le domaine des causes sociales. Tu sais, la psychologie ne change pas du tout au tout. D'un secteur à un autre, là. Ça, c'est la première chose. La deuxième
Mais
chose.
c'est-tu les mêmes leviers, mettons, tu sais, où
Ouais.
tu vas aller à motivationnel, en fait?
Ouais, c'est ça. Est-ce que les motivations sont les mêmes quand on achète, par exemple, une montre versus quand on fait un don, tu sais, par exemple? ben,
Ouais.
en fait, tu sais, il y a plusieurs différences entre le copywriting des causes puis le copywriting traditionnel. Tu sais, une des différences, c'est entre autres au niveau du vocabulaire. Tu sais, il y a certains vocabulaires, certains mots qu'on va retrouver dans le copywriting traditionnel qu'on retrouvera pas autant dans le monde des causes. Par exemple, t'sais, tous les termes un peu comme offre exclusive, c'est ce genre de termes-là, c'est pas nécessairement des termes qu'on va retrouver beaucoup dans le monde des causes sociales, t'sais. Où est-ce que généralement ça va être quand même beaucoup plus, on va s'assurer que nos services soient le plus inclusifs, de servir la plus grande population possible, etc. Fait qu'on n'utilisera pas des termes comme offre exclusive, même si on s'adresse pas à tout le monde non plus.
Ouais.
C'est un exemple. L'objectif aussi est différent. Donc là, je parlais du vocabulaire, mais il y a aussi l'objectif. T'sais. Donc on parlait tout à l'heure que là, dans les deux cas, l'objectif c'est de persuader une action précise, mais cette action diffère. Dans le sens où dans le monde des causes sociales, ça peut être de s'impliquer bénévolement, ça peut être de faire un don, ça c'est le classique ou autre, tu sais. Donc c'est des actions, des objectifs qu'on ne retrouverait pas nécessairement dans le copywriting classique. Puis il y a aussi dans la façon l'exercice qu'on doit faire en copywriting quand on est dans le monde des causes. Je parlais de persona tout à l'heure, tu sais. Il y a un exercice de double persona à faire quand on œuvre, par exemple, spécifiquement en philanthropie, là, pour aller recueillir des dons. Il y a un exercice de double persona à faire qu'on retrouve pas nécessairement dans le copywriting traditionnel. Puis ce que je veux dire par double persona, c'est qu'on doit réfléchir autant à qui est la personne à qui on va demander de faire un don et qui est la personne qui va bénéficier de ce don-là. T'sais? Donc, on doit plonger dans la tête et le cœur de ces deux personnes. Et ça doit transparaître dans nos textes. Alors que quand on achète une montre, là, pour reprendre l'exemple tantôt, ben, c'est la personne qui va donner l'argent pour acheter cette montre, c'est aussi la même personne qui va mettre la montre sur son poignet. T'sais? Donc, on se retrouve avec un seul persona dans ce cas-là précisément, par exemple. Il y a toutes sortes de petites différences, nuances comme ça. Au niveau autant des objectifs, du vocabulaire, des processus. Puis pour ce qui est des leviers motivationnels, du fameux pourquoi, là, le pourquoi on passe à l'action, là, ben il y a plusieurs choses, tu sais, il y a plusieurs motivations, il y a plusieurs raisons, par exemple, pourquoi une personne fait un don. Je vais en nommer deux. Le premier, par exemple, c'est le plaisir de donner. Donc, quand on fait un don, on a un plaisir à faire ce don-là, et ça a bien été étudié, puis il y a toutes sortes d'études là qui en parlent, de ce plaisir-là qu'on ressent dans le fait de faire un don monétaire ou un don de notre temps ou etc. Donc c'est pas
Un
juste de
peu comme
l'argent.
quand on offre un cadeau, ouais,
Offrir
c'est
un
ça. Il y
cadeau.
a comme un, ça fait
Exact.
autant plaisir à celui qui donne qu'à celui qui reçoit presque plus même.
Ouais, parfois même plus encore de ce plaisir-là de donner est vraiment très fort. Puis on peut s'en servir dans certaines campagnes. T'sais, mettons dans il y a un exemple que j'avais donné récemment qui était c'était la Croix-Rouge qui s'en servait explicitement de ce plaisir-là de donner dans une de ses campagnes, puis qui avait dit dans la campagne disait faites-vous plaisir, donnez du sang. Donc là, c'était vraiment l'association entre le don et le plaisir. Donc des fois, cette association-là, elle est explicite, puis d'autres fois, elle l'est pas. Mais il faut quand même le garder en tête quand on rédige. Il faut quand même garder en tête que c'est un des bénéfices, c'est ce plaisir-là. Puis une deuxième motivation que je pourrais te donner, c'était, je l'avais noté ici. C'était quoi dont je voulais te parler? Ah oui, c'était ça. C'était aussi le sentiment, parce qu'il y en a vraiment plusieurs motivations, mais une motivation aussi qui est très forte, c'est le sentiment d'avoir un impact. C'est de sentir qu'on contribue à quelque chose. C'est ce dont je te parlais là, tout à l'heure du pourquoi je me suis lancé moi-même à mon compte, de sentir que je me sentais valorisé, tout ça. Ben, ça s'applique aussi là, auprès des personnes à qui on s'adresse, qu'on leur demande de donner de leur temps ou de faire un don, quoi que ce soit de monétaire ou autre. Puis, c'est par exemple, mettons une fondation qui œuvre, une fondation hospitalière, par exemple, ben on le voit que quand on fait un don, on peut par exemple se sentir impuissant par rapport à une maladie qu'on a ou une maladie qu'un ou une proche a aussi. Puis en faisant un don, ça nous donne un sentiment d'empowerment, là, si je peux le dire comme ça, là, comme
de
si
puissance,
de quoi, pardon?
De puissance.
Ouais, c'est ça, tu sais, de sentir
on se sent un petit peu plus.
Oui, on se sent pas impuissant ou impuissante face au temps, là, en tout cas, face à cette maladie. On sent, ah, je contribue, par exemple, à la recherche pour qu'un jour, il puisse y avoir un médicament ou quoi que ce soit, ou un vaccin contre cette maladie X ou Y. Donc, c'est fort probablement, c'est aussi un deuxième levier motivationnel qui est très fort. Donc, tu sais, je te dirais, il y en a plusieurs autres, mais le plaisir, ce sentiment d'avoir un impact, ce sont deux leviers très importants. Puis, c'est important de les garder en tête, non seulement au moment où on demande de faire une action, mais aussi, par exemple, dans le cas d'avoir un impact, on va souvent le dire, de faire ensuite des courriels de suivi, de démontrer c'est quoi l'impact que les dons ont eu, le remerciement, tout ça, parce qu'on veut démontrer justement cet impact pour renforcer ce sentiment d'avoir eu un impact et aussi le plaisir d'avoir donné.
Oui, vraiment. Puis tu sais, je pense aussi je pense plus à l'exemple des publicités, par exemple, qu'on va voir à la télé ou tu sais, des publicités, on va dire vidéo. Tu sais, on va souvent jouer justement à, pas jouer, mais démontrer le justement cet impact-là du don, qu'est-ce que ça apporte. Je pense, par exemple, aux fameuses pubs de la Fondation Sainte-Justine. C'est là, on joue beaucoup sur le côté émotif, au niveau des enfants malades qui réussissent à avoir leur dernier traitement puis à sortir d'une maladie qu'on disait incurable. Fait qu'on joue beaucoup aussi sur ça, sur cette émotion-là qu'on peut ressentir, de se sentir impuissant puis de voir là, le résultat. On se dit, ben crime, si je peux donner, ben peut-être qu'il y en a d'autres, des petits-enfants qui vont guérir. Fait que t'as raison de... Je pense que ça doit être les plus forts, je pense, là. Fait, c'est toi qui pourrais me le dire, mais je pense que... Ouais,
ben, je pense que c'est une des différences. Tu sais, on parlait de différence tout à l'heure entre le copywriting traditionnel puis le copywriting d'impact ou dans le monde des causes sociales. C'est que, tu sais, dans le fond, on n'est pas... Tu sais, quand je te disais double persona, c'est parce que quand on est pour parler... En copywriting traditionnel, on va souvent dire parler des bénéfices des services que vous offrez, tu sais. Mais justement, ces bénéfices-là sont directs. C'est-à-dire que si moi, j'achète un service X, je vais bénéficier de ces services-là, moi, directement. Quand je dis direct, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont sur le court terme ou d'emblée. C'est plus dans le sens que c'est moi directement qui va en bénéficier. Il n'y a pas de personne intermédiaire ou quoi que ce soit. Là. C'est moi qui achète les services, c'est moi qui en bénéficie. Alors que dans le milieu des causes sociales ou plus précisément quand on demande, par exemple, de faire un don, ben c'est un peu plus difficile. C'est un des défis parce que les bénéfices sont pas directs dans ce sens-là. Ce n'est pas moi qui va bénéficier nécessairement. Des fois, oui, mais pas nécessairement moi qui va bénéficier de ce don-là. C'est des répercussions de l'impact de ce don-là. Fait que il faut qu'on me communique ça a été quoi finalement cet impact-là auprès des personnes concernées pour que moi aussi j'en ressente d'autres types de bénéfices qui sont un peu plus indirects, si on veut, comme le plaisir, le sentiment d'avoir eu un impact et tout ça, tu sais. Mais c'est quand même des bénéfices un petit peu plus indirects, si on veut, là. Donc,
ouais.
ça rajoute un niveau de difficulté pour une personne qui est en copywriting dans le monde des causes sociales.
Effectivement. Puis, tu sais, ce que je me demandais aussi en préparant l'entrevue, tu sais, je voulais te poser la question, est-ce qu'il y a des choses que on assume, nous, étant personnes qui n'œuvrent pas directement auprès des organismes, qu'est-ce qu'on assume de ce monde-là, des causes sociales? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rétablir pour rétablir les perceptions ou les pensées par rapport à ce milieu-là?
Par rapport au marketing précisément ou plus de manière générale ou comment tu voyais ça?
Comme tu le sens de manière générale, je pense, j'ai envie de te dire.
J'essaie de penser.
Y a-tu des choses que tu essaies de. Que c'est un peu ton cheval de bataille de défendre ou de dire comme voici comment ça se passe vraiment ou.
Ouais, mais tu sais, moi, je te dirais, j'ai plusieurs chevaux de bataille qui sont plus, je te dirais, pour défaire certaines croyances auprès de ma principale clientèle cible qui est vraiment auprès des OBNL et fondations, tu sais. Donc, c'est moins par rapport à, mettons, comment est-ce que les OBNL et fondations peuvent être perçues. Je pense à certaines choses, mais tu sais, ça fait moins partie de mes chevaux de bataille en tant que tel.
Mais veux-tu nous parler de l'autre côté de la médaille à ce moment-là?
Ben, je pense peut-être une chose. Je vais parler des deux côtés. Je vais mentionner rapidement d'un point de vue du grand public. Une fausse croyance, je pense que j'aimerais défaire, c'est on en parlait un petit peu là avant avant l'épisode d'aujourd'hui. Des fois, on souhaite vraiment s'assurer que notre don contribue directement à une cause précisément. Tu sais, qui va être, par exemple, de se dire, bon, si je fais ce don-là, il n'y aura pas ou très, 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 très peu de frais administratifs. Tu sais, comme si les frais administratifs étaient l'ennemi juré et comme si ça ne contribuait pas à la cause. Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, bon, c'est sûr que si les frais administratifs sont 99% du don, là, on se pose des questions, on s'entend, là. Mais
ouais,
quand
on
même,
est loin de l'impact,
d'avoir un certain pourcentage de frais administratifs, c'est-à-dire au fonctionnement de l'organisation qui gère ces dons-là, qui engage du monde, qui offre des services, qui a toutes sortes de choses à faire pour pouvoir vraiment s'assurer d'avoir un impact. Et c'est sûr qu'il faut un budget de fonctionnement. Puis ça, je pense que c'est un cheval de bataille super important pour les OBNL et fondations, c'est de vraiment avoir un budget de fonctionnement, de ne plus avoir de budget juste par projet. Elles reçoivent beaucoup des budgets juste, des enveloppes budgétaires pour un projet particulier. Mettons, là, je parle, mettons, d'une enveloppe là, qui peut venir d'une organisation gouvernementale ou autre. Puis, c'est juste pour le projet uniquement. Puis, c'est de plus en plus difficile d'avoir du financement pour le fonctionnement. Fait que ça serait une chose. Sinon, un cheval de bataille que j'ai par rapport aux organisations et fondations pour vraiment contribuer à développer comment dire, pour vraiment maîtriser la rédaction persuasive, puis communiquer vraiment avec plus d'impact, puis s'assurer de vraiment augmenter ses dons et son impact pour les causes, pour la cause qu'elle porte et tout ça. C'est entre autres, je dirais, il y a plusieurs choses, mais c'est entre autres, j'hésite entre deux, c'est pour ça. Je te dirais, entre autres, ça serait de communiquer avec plus d'émotions. Ça, c'est une chose. Il y a beaucoup d'organisations qui donnent de plus en plus d'informations, qui veulent toujours donner plus d'infos, t'sais, en se disant, ben, si on contribue pas à notre cause, c'est parce que notre cause est méconnue. Alors que, selon moi, c'est principalement, c'est pas à coup de plus d'infos, mais c'est à coup de plus d'émotions qu'elles vont pouvoir vraiment créer cette connexion, puis vraiment s'assurer que leur personne contribue à leur cause, t'sais. Fait que ça, je te dirais que c'est une chose. Puis là, j'en avais un deuxième, puis je me souviens plus. Ah oui!
C'est perdu.
Je me souviens, c'est quoi?
Oui, OK.
C'est que beaucoup d'organisations vont... Puis ça, c'est pas juste les organisations. On est plusieurs freelancers aussi à faire ça. On hésite à parler du problème quand on va rédiger. On va hésiter à parler du problème qu'on résout en se disant que ça pourrait être perçu de manière un peu négative, de parler du problème ou quoi que ce soit, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'organisations que j'accompagne qui vont dire, non, mais Charles, skip un peu la portion problème, puis on va d'emblée parler de la solution qu'on offre, puis de l'impact, à quel point on a de l'impact, à quel point c'est incroyable. Puis moi, j'aurais tendance à dire, oui, parlez de la solution que vous apportez, parlez de l'impact, mais ne sautez pas l'étape de parler du problème. C'est à la base, là, c'est la raison d'être. S'il n'y avait pas de problème, vous n'existeriez pas. Puis il ne faut pas faut pas amener le grand public à devoir, ou les personnes à qui vous adressez, je devrais dire, à devoir deviner le problème que vous êtes en train de résoudre. T'sais. Donc, c'est vraiment c'est de le mentionner explicitement, puis de ne pas avoir peur que ce soit perçu comme quelque chose de négatif parce qu'on parle du problème, tu sais.
Fait que, tu sais, comme par exemple, tu voudrais dire d'aborder de manière très directe, par exemple, le problème d'itinérance à Montréal ou dans les grandes villes, dans les grands centres urbains, puis d'en parler au lieu de juste dire on a des services alimentaires ou d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance, par exemple?
Ce serait ça. Ce serait de faire comprendre puis peut-être même ressentir aussi, idéalement, c'est quoi
l'ampleur.
Exactement. C'est quoi... puis pas juste l'ampleur du phénomène social, donc vraiment d'aborder l'itinérance comme phénomène, mais de vraiment se mettre dans la peau d'une personne qui est en situation d'itinérance, puis de voir c'est quoi, qu'est-ce qu'elle vit, c'est quoi les défis qu'elle rencontre, puis de les communiquer, ces défis-là. Donc, de pas juste donner des statistiques sur, voilà, il y a tant de personnes qui sont en situation d'itinérance, par exemple à Montréal, puis voilà, donc, les solutions qu'on apporte. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça, les organisations vont juste nommer une statistique pour aborder le problème, puis d'emblée, vont passer à la solution, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment, faut plonger dans ce problème-là que vous êtes en train de résoudre, parce que c'est seulement en l'abordant qu'on va vraiment comprendre à quel point votre organisation est importante, tu sais, puis à quel point elle fait une différence, c'est en comprenant bien le problème, puis tous les défis, tous les défis que ça peut amener, là.
Oui, c'est vraiment un excellent point. C'est vrai que des fois, on se contente juste de dire « voici le taux d'incidence de telle chose dans la société, voici ce qu'on fait pour aider », puis c'est moins, ça vient moins nous chercher, tu sais, on veut voir le vrai visage de la problématique si on veut la comprendre. Oui,
ouais, exactement.
C'est un excellent point.
Des fois, c'est juste parce qu'on sait pas que, par exemple, ça serait important d'en parler ou quoi que ce soit. Mais d'autres fois, c'est vraiment, justement, ce que je vois souvent aussi, c'est des fois, c'est un malaise de l'aborder. C'est d'aborder le problème. T'sais, il y a comme quelque chose, on nous a beaucoup, hein, en tout cas, encore une fois, je vais parler pour moi, t'sais, il y a beaucoup, j'ai souvent entendu au cours de ma vie, parle-moi pas du problème, apporte-moi une solution. T'sais, on l'entend souvent comme si parler du problème, c'était pas déjà une première étape importante. T'sais. On l'entend des fois souvent dans le milieu de travail, c'est comme, OK, mais là, tu nous apportes une solution parce que là, tout ce que j'entends, c'est le problème. Mais c'est des fois, ça vaut la peine de vraiment se dire, parlons-en du problème, puis parlons-en en long et en large pour qu'on vraiment le comprenne bien, puis qu'on s'assure que quand on apporte une solution, qu'elle soit vraiment, tu sais, alignée avec le problème. C'est un peu la même chose dans les textes qu'on rédige. Il faut vraiment aborder le problème en long et en large.
Même si c'est inconfortable.
Même si c'est inconfortable. Oui.
Ouais. C'est un bon point. Puis là, ce que j'ai envie de te poser comme question, ça concerne un petit peu moins l'univers direct des causes sociales. J'ai envie de parler aux copywriters, savoir s'il y a des choses ou des trucs que tu vois, des conseils que tu aimerais donner pour justement être capable de créer cette connexion-là, faire partie des émotions. Tu sais, je pense que c'est ce que tu es amené à faire dans ton quotidien. As-tu des conseils à donner aux solopreneurs, aux freelancers qui voudraient améliorer leur com, avoir plus d'impact?
Oui, c'est sûr, tu sais, pour en avoir plusieurs, mais je pense que à la base de la base là, je pense que toute part, tu sais, on en parle souvent, tu sais, de bien connaître son persona, etc. Tu sais, j'irais peut-être pas là parce que c'est comme trop un classique, mais en même temps,
les gens vont rouler les yeux. C'est là, ça. Sinon.
c'est plate parce que moi aussi maintenant je roule les yeux, mais c'est plate. C'est que l'affaire, c'est que toute part de là, tu sais. Puis, ça m'amène en fait à mon principal conseil, c'est vraiment de vraiment connaître sur le bout des doigts le problème qu'on résout, la solution qu'on offre, les bénéfices qu'on apporte à travers cette solution, à travers nos services, l'action qui est demandée justement aux personnes à qui on s'adresse, puis c'est quoi leurs principales objections ou peurs, pourrait les empêcher de faire cette action-là? Objection, peur ou fausse croyance? C'est at the end of the day, là, si on était pour résumer le copywriting, là, c'est très, très genre, je pourrais me faire lancer quelques flèches si je disais que le copywriting se résume à ça. C'est pas du tout le cas, là. Mais c'est quand même quelque
si
chose...
Si on simplifie.
Ouais, c'est ça. Qui est quand même au fondement du copywriting. Le copywriting est beaucoup plus que ça. Mais à la base, il y a beaucoup de réflexions sur problème, solution, bénéfice ou impact. On peut l'appeler autrement. L'action, puis c'est quoi les objections, fausses croyances ou autres qui font en sorte qu'on ne fait pas cette action-là. C'est à Diane, puis c'est pour ça que je parlais de persona. On peut l'appeler autrement, on n'a pas besoin de l'appeler persona, mais c'est juste de dire qu'on doit faire nos devoirs, de vraiment les connaître. C'est quoi les désirs, c'est quoi les besoins, c'est quoi les problèmes qui sont vécus pour vraiment pouvoir bien les communiquer. Puis ça, ben oui, tu sais, on va entendre des fois, genre, aller en ligne, aller lire, genre, des avis, tout ça sur certains produits, services. Mais ça s'applique pas nécessairement toujours à nous, freelance. Nous, freelance, souvent, la technique la plus classique, c'est on prend le téléphone ou en visioconférence, puis on parle aux personnes à qui on s'adresse, là. Fait que,
On pose des questions, plein de questions.
On pose plein de questions.
Puis c'est tellement difficile comme réflexion pour bien des entrepreneurs parce que la première pensée qu'on va avoir, c'est « je peux aider tout le monde ». C'est comme le premier truc des fois qu'on se dit « ah ben tu sais, surtout quand on se lance, tu l'as dit au début, on a vraiment très large. » Je pense que tous les entrepreneurs que je connais ont fait ça dès le départ. Là, t'sais, comme même moi, là, la première fois, qui tu peux aider? Ben moi, je peux aider un tel qui a besoin de... faire son projet de site web, je vais l'aider, je vais gérer son projet, je vais faire ci, je me suis ramassée à faire tellement de tâches différentes que, mais comme tu dis, ça m'a permis, je referais la même chose aussi parce que j'ai compris qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, où était ma véritable zone de génie, puis où c'était comme, bof, tu sais, je peux te le faire, mais garde, tu sais, demande-moi-en pas trop, c'est pas mon carré de sable habituel, fait d'apprendre de ça, c'est bon, mais t'as raison que après ça, plus ça se peaufine, plus on apprend de ça, puis plus on apprend à mettre des mots sur qu'est-ce qu'on fait. Puis ça, c'est pas évident pour tout le monde. Tu sais, même moi, tu parlais de la tagline sur LinkedIn. Pour vrai, c'est comme... Il y a tellement pas assez de caractères. Des fois que t'es comme, OK, comment je peux être concise, précise, puis en même temps susciter une bribe de curiosité pour en apprendre davantage. C'est tout un défi. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui existent pour nous aider.
Ben, je pense, entre autres, tout à l'heure, je disais que la spécificité contribue à la persuasion. Puis je pense, entre autres, qu'il y a un élément différenciateur parce que c'est sûr que plus on précise ce qu'on fait, plus on est spécifique, ça contribue à la différenciation. Puis c'est pour ça que je disais que ça contribue au positionnement parce que différenciation, ça veut dire d'être différent, d'avoir quelque chose de différent à offrir et donc de se positionner, d'être reconnu, d'être top of mind, etc. Ça contribue à plein d'affaires, mais tout ça part de quelque chose de spécifique. Puis tout à l'heure, quand je parlais de nicher, c'est que pour moi, il y a quelque chose de différent entre être spécifique dans ce qu'on fait puis être niché. Puis la principale différence, c'est que tu peux avoir plusieurs niches. Tu peux avoir la niche 1, 2, 3. Et dans chacune de ces niches-là, il faut être ultra spécifique puis précis dans ce qu'on offre, à qui on s'adresse, etc. Donc, ça n'empêche pas qu'on doit être super spécifique. On peut ratisser plus large après en développant différentes niches. Par exemple, moi, j'offre maintenant un autre service qui est aussi un service d'écriture inclusive qui n'a rien à voir avec le copywriting. Puis, j'ai décidé de le lancer parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, j'ai lancé ça. Je me suis pas dit « Ah non, moi, je suis juste niché copywriting, je peux pas aller dans l'écriture inclusive. » Je me suis lancé aussi dans l'écriture inclusive. Mais quand je communique là-dessus, je m'assure que ce soit vraiment très, très précis, très spécifique. Dans tout ce dont je parle, là, je disais problème, solution, bénéfice, etc. Là, tout ça doit être ultra spécifique.
Oui. Ça fait beaucoup de sens. Puis j'ai le goût de te demander, c'est quoi ta vision d'avenir pour ton entreprise, les mots pour la cause? Qu'est-ce que tu vois? Là, tu as parlé, tu nous as un petit peu spoilé sur une formation qui s'en vient.
Ouais.
Y a-t-il d'autres éléments?
Ben oui, en fait, je te dirais deux choses. La première, c'est d'un point de vue personnel. Je veux apprendre à avoir encore plus de plaisir dans ma business, de trouver l'équilibre et de trouver la définition de le sens de ce que ça veut dire pour moi. Donc, je pense que tu sais, j'ai beaucoup d'objectifs comme ça, un peu plus personnel dans le sens de par rapport toujours à ma business, mais qui moi, m'affectent comme personne. Puis sinon, le deuxième objectif que j'ai vraiment pour le développement de mon entreprise en tant que telle, mon objectif, c'est de construire un continuum de services. Il y en a qui vont parler d'échelle ou peu importe, là, mais c'est vraiment ça. T'sais, en ce moment, j'ai un service de copywriting, qui est mon service principal, qui s'adresse juste aux organisations. J'ai un service de coaching qui s'adresse aux organisations et aux freelances. Et là, je suis en train de développer d'autres services qui vont venir se greffer à ça pour construire un continuum ou une échelle. Puis, les services qui vont venir se greffer à ça, c'est entre autres une formation en copywriting, puis aussi des mini-produits, des mini-offres, des plus petites offres là, à petit prix, etc., qui ne demandent pas beaucoup d'argent ou de temps, toujours liées au copywriting. Donc, ça pourrait être des produits en ligne, peut-être des ateliers,
répondre
des
à une problématique, c'est ça, précis.
Ultra précis. Tu sais, de vraiment pouvoir avoir du fun, d'aller sur quelque chose de ultra, ultra précis, le genre de questions qui me font triper. Fait que c'est ça. Ouais.
Très cool. Puis en terminant, ben, j'ai envie de t'inviter à nous partager un outil. Tantôt, tu as parlé de 12 mini-trucs, c'était pas anodin. Je pense que c'est ce que tu voudrais peut-être proposer à ceux qui nous ont écoutés puis qui veulent en apprendre plus sur ton univers et ta vision du copywriting.
Oui, c'est ça. Ben, pour les personnes qui veulent justement apprendre à persuader avec les mots, découvrir des techniques de copywriting puis voir comment ça peut contribuer à une cause ou autre, là. Ben en fait, je propose 46 mini-trucs et 26 exemples de campagnes. Donc, c'est des campagnes qui sont liées aux causes sociales. Puis c'est vraiment là, ça se digère très bien. Là, c'est très, 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 très court. Donc, ça se trouve là, sur mon site. Mais sinon, moi, j'envoie aussi à travers mon infolettre, j'envoie un truc de copywriting par mois. J'aimerais ça augmenter la cadence, mais en ce moment, je le fais pas encore.
Le temps.
pas le temps ou l'envie. Mais c'est ça. Je dirais que ce serait ça de mon côté. Puis sinon, en termes de ressources autres, il y en a tellement. Il y a tellement de personnes qui offrent toutes sortes de ressources. Moi, je m'abreuve beaucoup là, du côté de LinkedIn. Il y a énormément de ressources là, de ressources gratuites. Énormément de coaching. T'sais, moi, j'aurais tendance à dire, t'sais, à un moment donné, de lire, c'est une chose, mais je trouve que le coaching, pour moi, c'est un service que je trouve intéressant parce que ça permet vraiment à une personne de développer ses compétences en copywriting. Puis, je suis pas le seul à l'offrir. Là. Il y a plusieurs autres copywriters qui offrent des services de coaching à des freelances aussi, mais qui permettent de vraiment avoir un retour précis sur un texte qu'on a rédigé. Puis, à ce moment-là, c'est des conseils vraiment personnalisés puis de voir qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour contribuer à développer une connexion avec la personne qui t'adresse pour qu'elle fasse l'action que tu souhaites qu'elle fasse, idéalement. Puis vraiment, ben c'est ça, renforcer la persuasion de
notre texte. La fameuse rétroaction, ben oui.
Ouais, c'est ça.
Ça fait toute la différence.
Fait que, ouais, je pense que c'est quelque chose. On parle beaucoup des formations, puis les formations, tu sais, des fois, ça peut être un peu long, puis assez exhaustif. Mais je trouve que le coaching, puis moi-même, je me fais coacher aussi, là. Donc, puis c'est quelque chose que j'ai bien l'intention de faire toute ma vie, parce qu'on apprend beaucoup avec cette formule-là, je trouve.
Vraiment. Donc, tu nous en as parlé un petit peu, mais j'imagine que le meilleur canal pour te rejoindre, c'est LinkedIn pour suivre tes réflexions. Parfait. Ouais. Fait que je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode, des outils dont tu as parlé, puis le lien pour rejoindre ton LinkedIn, puis aller lire tes publications.
Génial.
Donc, un gros merci.
Merci à toi, Mélanie.
Merci, Charles. C'était super intéressant.
Merci encore de l'invitation.
Enfin, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Bye.
Bye bye tout le monde.
Alors, j'espère que cette entrevue t'a plu et que tu en as retiré des belles pépites de réflexion sur comment inclure peut-être le copywriting, certaines pratiques, certains conseils que Charles nous a partagés dans l'épisode, le mettre en pratique pour tes propres textes. Et je t'invite bien sûr à aller regarder l'outil gratuit présenté par Charles qui présente vraiment des trucs concrets, appliqués, qui, je pense, vont pouvoir t'aider à y voir plus clair sur comment rédiger de manière beaucoup plus persuasive. Alors, je t'invite aussi également à suivre Charles sur LinkedIn pour en savoir plus. Et sinon, ben, si tu as aimé l'épisode et que tu veux encourager 180 degrés, je t'invite à laisser une note ainsi qu'un avis écrit sur la plateforme d'écoute de ton choix, pour me permettre de faire connaître davantage 180 degrés. Et d'ailleurs, si tu as envie de me partager en stories l'épisode que tu es en train d'écouter, donc celui-ci, bien tu peux le faire et m'identifier, ça va me faire plaisir de repartager le tout. Donc, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!